Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et alors cette semaine, on va poursuivre, vous nous parliez la semaine dernière, des conséquences de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche pour le reste du monde. On va poursuivre sur cette thématique et vous souhaitiez y revenir en abordant cette fois le thème culturel, Brice. Pourquoi cette insistance ?
Ben parce que l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis est un événement d'une portée historique. D'abord, bien sûr, en raison du poids de ce pays sur la scène mondiale, même s'ils ne sont plus l'hyperpuissance d'il y a 20 ans, les États-Unis constituent encore aujourd'hui la première puissance militaire du globe. Et surtout, c'est Washington qui a conçu et imposé l'architecture de l'ordre international en vigueur aujourd'hui. Ses systèmes de normes, ses institutions, son encadrement général, un encadrement que précisément Trump s'apprête à défaire aujourd'hui. Ensuite, parce que la victoire de cette personnalité atypique et sans aucune expérience politique préalable dans une très ancienne démocratie est troublante. Enfin, parce que cette élection s'inscrit dans une série démocrature, populisme, Poutine, Erdogan, Brexit, qui ne saurait s'arrêter sur les bords de l'Atlantique ou de la Méditerranée. La vieille Europe sera inévitablement concernée, du reste elle l'est déjà. Piquer un monstre à coups d'épingle est vain. Cela procure les médiocres satisfactions que donne l'illusion d'agir, a écrit Czesław Miłosz. Alors plutôt que de manifester dans les rues de nos capitales, il est plus utile de contribuer, chacun à notre mesure, à l'élucidation d'un phénomène qui engage notre avenir. Alors, je vous propose en effet, Florian, cette semaine, une lecture de la victoire du candidat républicain en termes idéologiques, ce qu'on appelle parfois aux États-Unis « culture war », la guerre culturelle. Pourquoi Donald Trump l'a-t-il emporté ? Quel est le sens d'un événement qui constitue manifestement un tournant dans l'histoire du monde ? Et d'abord, pour comprendre qui a voté Trump, faisons appel à la plus nécessaire des sciences sociales dans le contexte actuel, la géographie humaine. À la manière dont chez nous, Laurent Davzy, Michel Lussault, Jacques Lévy ou Christophe Guillouis ont mis en lumière les mouvements de fond qui traversent notre pays en se penchant sur les cartes, aux États-Unis, un géographe, Joel Kotkin, donne une description très précise des catégories sociales qui ont voté pour Trump en analysant les résultats électoraux état par état, voire comté par comté.
Alors un peu de géographie électorale justement. Selon votre géographe, qui a voté Trump, qui a voté Clinton ?
A voté Hillary Clinton le Nord-Est et massivement. Maine, Massachusetts, Maryland, New Jersey, Vermont, État de New York et de Washington. Toute la côte ouest, avec l'énorme État de Californie, ceux de Washington et de l'Oregon. A voté Donald Trump, le Sud, y compris les deux mastodontes de Floride et du Texas, qui n'étaient pas gagnés d'avance. Plus, en gros, tous les États situés entre les Appalaches à l'est et les montagnes rocheuses à l'ouest, c'est-à-dire l'Amérique profonde, Tennessee, Iowa, Nebraska, les deux Dakota, le Colorado, l'Utah, etc. À cinq exceptions près. Le Minnesota, où Clinton l'emporte d'extrême justesse, et l'Illinois, où elle l'emporte nettement, grâce à la seule ville de Chicago et à ses banlieues, le reste de cet État ayant voté républicain. Et puis trois États qui ont connu une forte implantation d'immigrés d'Amérique centrale, New Mexico, Colorado, Nevada. Maintenant, les États qui ont voté pour Trump sont caractérisés par une économie de production de biens tangibles, industrie traditionnelle, alimentation, énergie. Trump l'a emporté dans les États manufacturiers traditionnels. Il a séduit les cols bleus de l'Ohio, du Wisconsin, de l'Indiana, de l'Iowa et du Michigan. Ces électeurs ont voté contre la mondialisation et les accords commerciaux par lesquels ils se sentent menacés d'une concurrence insupportable. Joel Kotkin en a tiré une loi de portée générale qui va intéresser notre invité. Plus un État est émetteur de dioxyde de carbone, plus il a voté Trump. Les États pauvres aussi, qui ont bénéficié du boom des pétroles et gaz de schiste, comme la Louisiane, ont également voté Trump. C'est donc un vote anti-écologiste. Mais Trump a aussi bénéficié du vote des fermiers, inquiets de la chute des cours agricoles et là encore, du risque de concurrence des pays étrangers. En face, vous avez l'économie de l'immatériel, la Silicon Valley, Hollywood, la communication et les médias, la banque et la finance, tout ce qui fait la fortune de la Californie ou de New York, en somme, a soutenu Clinton. L'explication par l'ethnicité convainc moins notre géographe. Certes, CNN ne cesse de disserter sur le déclin du vote blanc, et il est vrai que la proportion de blancs dans la population totale des États-Unis ne cesse de décroître. Il meurt plus de blancs qu'il n'en est. Mais les non-blancs ne constituent encore que 30% de l'électorat. Et les blancs diplômés de l'enseignement supérieur votent, eux, démocrates. Non, pour mon géographe, l'ethnicité n'est pas le bon critère. Ce à quoi on assiste, c'est en fait un retour en force du vote de classe, qui n'eut d'équivalent qu'à l'époque du New Deal avec Roosevelt. Trump a mobilisé les classes moyennes et ouvrières en faisant campagne contre la mondialisation et contre l'immigration. Il a surfé sur l'exaspération que provoque parmi les classes laborieuses, je cite, « l'arrogance des élites culturelles progressistes ». Il doit sa victoire au basculement en sa faveur du fameux « leftover people », le peuple des laissés pour compte, qui sont d'anciens supporters démocrates, mais ces électeurs se sentent trahis par un parti de gauche qui est passé du côté du big business et dont les intérêts sont dorénavant étroitement liés à ses sources de financement, Wall Street, la Silicon Valley, Hollywood. La plupart des détenteurs de grandes fortunes américaines ont d'ailleurs soutenu Hillary Clinton.